Champagnac, chronique du crime et de l'innocence, la belle tonnelière. Le sieur Parfait de Vaux s'était lié, étant au collège de Navarre, avec les deux frères Garnier, qui étaient pensionnaires comme lui. On sait que ces sortes de liaisons, bien différentes de celles que l'on forme ensuite dans le monde, durent souvent aussi longtemps que la vie des individus qui les ont formées. De Vaux, après sa sortie du collège, continua à regarder les frères Garnier comme ses amis. Sa mère s'était remariée en seconde noce avec un sieur Duparc. Il était né de son second lit deux fils, Nicolas et Claude Duparc, dont l'un devint dans la suite maître d'hôtel de la ville de Paris et l'autre officier de la reine. Ces deux enfants, en leur qualité de frères ultérins du sieur De Vaux, étaient ses uniques héritiers, chacun pour moitié de ses meubles et acquêts et des propres paternels. Cinq collatéraux étaient appelés à la succession des propriétés paternelles. L'un des frères Garnier s'étant marié et sa femme étant devenue enceinte, De Vaux, qui les voyait fréquemment, leur disait en plaisantant que s'ils avaient une fille, il en ferait sa femme. Conformément au désir de De Vaux, ce fut une fille qui vint au monde. De Vaux prit l'habitude d'appeler cet enfant sa femme, et celle-ci, dès qu'elle put balbutier, l'appela son mari. Telle fut l'origine de la liaison qui s'établit et dura entre Marie-Marguerite Garnier et le sieur De Vaux jusqu'à la mort de ce dernier. De Vaux fit plusieurs voyages et acheta ensuite des charges chez le roi et chez la reine, ce qui apportait quelques distractions à sa liaison avec la fille de Garnier. Marie-Marguerite Garnier se maria avec Nicolas Durand, maître tonnelier. Elle était richement pourvue des agréments de la taille et de la figure, et ses avantages extérieurs étaient même assez remarquables pour qu'on la nommât, dans Paris, la belle tonnelière. En 1737 ou 1738, De Vaux prit le parti de vendre ses charges et de jouir tranquillement de sa fortune à Paris. Dès lors, la belle tonnelière et sa mère ne le quittèrent presque plus. Il se rendait chez lui dès le matin, dînait avec lui et lui faisait société jusqu'au soir. Il remarquait entre la jeune femme et lui une familiarité qui pouvait donner lieu de soupçonner qu'il existât entre eux autre chose qu'une simple amitié. Mais personne n'avait intérêt à éclaircir ce mystère, et le mari, qui savait tout ce qui se passait, ne s'en plaignait aucunement. Le monde n'avait rien à dire. Quoi qu'il en soit, De Vaux devint valétudinaire. Les assiduités de la jeune femme redoublèrent. Elle ne le quittait plus, ne souffrant pas que personne autre qu'elle lui administrât les remèdes qui lui étaient prescrits. Et ce fut dans ces circonstances qu'il fit un testament holographe le 25 février 1740, par lequel il institua la jeune femme Durand sa légataire universelle. Cet acte attestait l'emprise qu'elle exerçait sur l'esprit de De Vaux, ou du moins l'affection aveugle qu'il avait pour elle. Non seulement le mari de la légataire n'avait point part aux libéralités du testateur, mais celui-ci ne voulut pas que l'autorité maritale s'étendît sur ses générosités. Il voulut qu'elle tournasse tout à l'avantage de celle dont les charmes et la séduction il lui avaient inspiré et qui en était l'unique objet. Pour prévenir l'infidélité des héritiers, qui auraient pu facilement soustraire un testament holographe qui les dépouillait, il en fit déposer un double chez un notaire et garda la première minute dans ses papiers. Il fit ensuite un codicille par lequel, après avoir confirmé son testament, il faisait des legs à ses héritiers des deux branches, mais à condition qu'ils consentiraient à l'exécution du testament, sans quoi leurs legs étaient révoqués. Malgré toutes ces précautions, la belle tonnelière n'était pas sans inquiétude sur sa qualité de légataire universelle. Un seul instant pouvait renverser des espérances qui ne pouvait se réaliser que par la mort de son bienfaiteur. Elle songea donc à se procurer des avantages plus indépendants des caprices de la volonté. Le 15 décembre 1741, elle amena De Vaux à lui faire une donation entre vifs d'un contrat de 1200 livres de rente au principal de 24 000 livres. Il voulait, disait-il, dans ce contrat, donner à la donataire des marques de sa considération particulière et reconnaître en elle l'attachement qu'il avait toujours eu pour sa famille. Et il voulait aussi que cette donation fût à l'abri des autres saisies de créanciers antérieurs et postérieurs et qu'elle en disposât sans l'autorisation de son mari. Mais il faut remarquer qu'il s'en réservait l'usufruit sa vie durant, en sorte que la belle tonnelière, pour jouir soit comme donataire, soit comme légataire, devait attendre le décès du sieur de Vaux. Cependant, elle continua ses assiduités et présida constamment aux soins qu'exigeait la santé de son bienfaiteur. Pendant ce temps, on écrivit à Devaux une lettre anonyme par laquelle on essayait de lui donner des soupçons sur la femme Durand, mais il rejeta cette relation avec une énergie qui prouvait sa confiance aveugle. Pouvait-il croire en effet qu'une jeune femme douce, aimable, toujours attentive à faire valoir les charmes de la séduction et pleine de prévenance à son égard, fut capable de commettre un attentat aussi noir que celui dont on l'avertissait de se défier? On a dit aussi que, dans le même temps, Devaux avait eu le dessein de se marier avec une dame veuve de Noinville, et que sa favorite, la belle tonnelière, lui en avait fait des reproches. Il y avait en effet de quoi l'alarmer dans ce projet, attendu que le testament de donation courait risque d'être anéanti par la souvenance d'enfants légitimes. Ce qui alla à certains, c'est que le sieur de Vaux fit le 21 novembre 1742 un second codicille contenant quelques legs au profit de la dame de Noinville. Le testateur mourut le lendemain de cette nouvelle disposition. Les symptômes qui accompagnèrent cette mort firent soupçonner un empoisonnement. Sur ces indices, le corps fut ouvert le lendemain et les hommes de l'art déclarèrent que le défunt avait pris quelques médicaments corrosifs qui avaient causé sa mort. Il n'en fallut pas davantage pour confirmer les soupçons. Le procureur du roi au Châtelet rendit plainte le 24 novembre 1742, se fondant sur les soupçons qui s'étaient élevés sur le genre de mort du sieur de Vaux. Et pour en découvrir la cause et la constater, il requit que le corps du défunt fût visité par les médecins et chirurgiens du Châtelet et qu'il en fût informé. La visite requise fut ordonnée et exécutée. Les médecins et chirurgiens du Châtelet déclarèrent qu'ils avaient trouvé l'estomac gangrené et en dedans plusieurs excoriations, taches noires et le velouté détruit, d'où ils conclurent que Devaux était mort d'un poison corrosif. Le corps du délit ainsi constaté, on fit une information pour en découvrir les auteurs. Mais cette information parut si peu concluante au ministère public qu'il se borna dans ses conclusions à en demander la continuation. Cependant, la belle tonnelière, sa mère et son laquais du sieur Devaux furent arrêtés. On entendit deux nouveaux témoins. L'un d'eux, nommé André Boisval, épicier droguiste, déclara que le tonnelier Durand était venu lui acheter de l'arsenic pour des rats. Mais dans son récollement, ce témoin changea plusieurs circonstances notables. Il avait dit d'abord qu'il avait vendu au tonnelier Durand une once d'arsenic, et dans le récollement, c'était une demi-once de sublimé arsenic corrosif. On a prétendu que ce témoin fut confondu par l'accusé à la confrontation et que cette circonstance aurait manifesté son innocence si cette confrontation eût été fidèle ou rédigée. Mais à cette époque, le greffier du Châtelet était ce Marot que ses influentes prédications firent condamner dans la suite aux galères. À la faveur de la trop grande confiance du juge, il mettait son ministère à prix. Il ne rougit pas, disait-on, de faire offrir à la belle tonnelière, moyennant une somme d'argent, ce qu'il appelait une bonne tournure. Mais l'accusé, qui ne voulait devoir sa justification qu'à son innocence, rejeta avec indignation cette proposition. Marot, confus d'avoir inutilement découvert sa scélératesse, devint le plus cruel ennemi de la femme, du rang. Aussi, depuis ce temps-là, lui fit-il éprouver toutes les humiliations que lui dictait son ressentiment. Quand on interrogeait cette femme, il affectait de la confondre avec les scélérats qui devaient le jour même être traînés au dernier supplice. Mais ses actes de barbarie ne lui suffisant pas pour assouvir sa vengeance, il fit tout ce qu'il put pour la faire paraître criminelle, en supprimant dans la procédure ce qui était à sa décharge, et c'est ce qu'il avait fait, disait-on, dans la rédaction de la confrontation de Boisval. On observait encore, relativement à ce dernier, que la crainte d'être poursuivi comme faux témoin et la conviction intérieure de son crime lui avaient fait prendre la fuite sans que l'on sût ce qu'il était devenu. Quoi qu'il en soit, ce fut sur le témoignage de ce Boisval que le tonnelier Durand fut arrêté. Le mari et la femme furent détenus en prison pendant une année pour un plus ample informé. L'année révolue, aucune nouvelle charge n'étant survenue, ils furent relâchés à la charge par eux de se représenter quand ils en seraient requis. À cette procédure criminelle se joignit une procédure civile qui fut longue et animée. Les héritiers collatéraux du sieur de Vaux attaquèrent le testament qui constituait la femme du rang en légataire universel, et la donation qu'elle s'était faite à le juger de la rente de 1200 livres, et ils eurent gain de cause. Il y eut des appels de part et d'autre. Enfin, en 1765, plus de 20 ans après, la femme du rang ayant invoqué la prescription pour réclamer l'exécution du testament de Devaux, fut déclarée non recevable et condamnée aux dépens. La question d'indignité fut jugée contre elle, suspecte d'avoir empoisonné son bienfaiteur. Elle fut indigne de recueillir ses bienfaits.